Bonsoir, très chère Christelle, bonne année à vous.
Bonsoir, bonne année.
Comment allez-vous ?
Bah, il faut aller.
Ah.
On va dire ça comme ça.
Je vous écoute, chère Christelle.
Alors, en fait, je prends contact avec vous parce que je suis privée de mon enfant depuis le mois de juillet dernier parce qu'il a été placé chez, on va dire, le faux papa de mon enfant. Donc, je vais expliquer mon histoire.
Ouais, parce que le faux papa, c'est étrange, vous êtes d'accord?
C'est étrange, mais je ne peux pas donner de nom, donc c'est le terme exact que j'emploie lorsque...
D'accord.
Voilà. Pour être clair, j'ai fait une PMA à l'étranger à l'époque où il n'était pas encore possible de le faire en tant que femme célibataire en France, puisque la loi a évolué qu'en octobre 2021 suite à une loi de Monsieur Macron. D'accord. Donc moi, c'était en 2019 ma démarche de PMA. J'ai eu un petit garçon qui s'appelle Charles. Je donne son prénom. Voilà. Il est né en janvier 2020, donc au tout début du Covid, à l'hôpital Necker. Donc, j'ai accouché avec le directeur de la maternité de Necker ce jour-là. Il s'avère que j'avais une grossesse compliquée et on m'a demandé de venir accompagner avec un tiers ou une tiers de confiance ce jour-là. De par ma vie, ma maman est décédée, je n'ai pas de sœur. Et j'avais un très bon ami qui ne l'est plus. En l'occurrence, le faux papa, qui est venu comme tiers de confiance uniquement le jour de mon accouchement parce que je devais être accompagnée de quelqu'un. Je risquais ma vie. On me l'a annoncé qu'après avoir accouché de mon bébé. On me l'a annoncé 8 mois après avoir accouché que j'avais risqué ma vie au moment de l'accouchement. Et on m'avait demandé de reconnaître mon enfant de manière anticipée, ce que j'avais fait en décembre 2019, un mois avant mon accouchement. Que j'étais femme célibataire et donc dans l'éventualité où il y a un risque final, il fallait que j'ai reconnu mon enfant. Et ce monsieur, qui était donc un ami à l'époque, a insisté lourdement pour reconnaître mon enfant à plusieurs reprises. Moi, je ne souhaitais pas qu'il le reconnaisse puisque j'ai eu recours à un don de sperme avec un donneur anonyme. Donc avec la banque de sperme Cryos au Danemark, on en avait entendu parler avec un politicien il y a quelques années qui d'ailleurs avait déclaré des choses un peu tordues au sujet de cette banque de sperme parce qu'il n'avait pas l'air d'être bien au courant. Donc un monsieur du bord de Madame Pécresse. Donc je ne sais pas si...
Mais tout vous dites, il a insisté lourdement, je ne voulais pas, donc vous l'avez quand même laissé faire.
Je me suis laissé manipuler. Exactement.
Oui, enfin, vous n'êtes pas non plus, vous n'avez pas 12 ans non plus.
Je n'ai pas 12 ans non plus.
Non, mais j'essaye quand même de recadrer les choses, de pondérer
oui,
un
oui.
peu, parce que vous n'avez pas non plus un revolver sur la tempe. C'était juste ce que je voulais mettre en évidence.
Non, mais par le fait d'une histoire légèrement compliquée sur le à la fin, avant ça. Alors, je vais aller dans le plus pointu pour qu'on comprenne mieux. Donc, ce monsieur est d'une bonne famille, on va dire ça comme ça. Mmh. Son papa est amiral en retraite de la marine française, d'accord. Ses beaux-frères font partie du top 5 de la marine française. Bon, je donne pas de nom, mais c'est facile. Voilà. Il travaillait dans une très grande banque où M. Macron a travaillé, donc je ne vais pas la nommer non plus. Enfin, si vous voulez, c'est un milieu où c'est assez fermé, il y a de l'influence, il y a du monde connu.
Je suis désolé, je ne vois pas le rapport en fait, je suis désolé.
D'accord.
Il y a quelque chose que j'entends, c'est votre souffrance et la situation a l'air extrêmement douloureuse et extrêmement compliquée, et ça, c'est respectable. Maintenant, vous savez, j'aime bien tout comprendre.
D'accord.
Et en fait, je pense qu'il y a effectivement des situations où, dans le feu de l'action, on peut se laisser impressionner et sans savoir exactement où on en est. C'est ce qui vous est arrivé, en fait.
Peu importe que ce soit
une famille de marins, etc. En fait, ce qui vous a impressionné,
c'est que
dans le feu de l'action, vous n'avez pas su dire non. Ça arrive à tout le monde.
Oui, mais c'était 2 mois après la naissance de mon enfant.
Ah, d'accord.
C'était pas au moment de l'accouchement.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Donc il s'avère que à l'issue de ça, enfin moi J'étais un peu, voilà, j'ai eu un accouchement difficile, une césarienne, enfin difficile.
Très lourd.
Donc voilà, je me suis, ouais, c'est ça, exactement, lourd. Et il s'avère que l'année dernière, j'avais pas de livret de famille. J'avais pas eu de livret de famille parce qu'on était au moment du Covid.
D'accord.
Donc l'année dernière, en septembre 21, on m'a demandé au niveau de la crèche de mon bébé une photocopie de mon livret de famille que j'avais pas. Donc je l'ai demandé auprès de la mairie de Paris 15e. Hein. Et on me l'a délivré en novembre 21. Et là, en fait, j'ai eu le flash, enfin, j'ai eu le déclic, parce que moi, j'avais pas de nouvelles de cet homme, de toute manière, depuis, voilà, longtemps. Et j'ai vu sur mon livret de famille, époux ou père. Donc, ça m'a fait un électrochoc.
Oui, parce qu'il est ni l'un ni l'autre.
Il est ni l'un ni l'autre. Et en fait, j'ai lancé une contestation de paternité auprès du tribunal. J'ai écrit, parce que je suis allée à la mairie en leur demandant ce que je devais faire. Ils m'ont dit, vous écrivez au procureur de la République, ce que j'ai fait de manière immédiate, en novembre 21. J'ai reçu une réponse en janvier 22, où on m'a marqué qu'il fallait que je me rapproche d'un avocat. Donc j'ai déjà perdu 2 mois à l'époque. Après ça, j'ai pris une avocate qui est reconnue, qui est pas loin de sa retraite, à Versailles. Parce que j'avais eu besoin d'elle pour une autre affaire il y a des années auparavant. Et elle n'a pas mesuré. Elle me l'a dit, elle s'est excusée d'ailleurs en juin dernier de ne pas avoir mesuré l'urgence.
Allez à l'essentiel, Christelle.
D'accord. Ok. Et donc, en fait, elle n'avait pas lancé la contestation de paternité.
D'accord.
En avril 2022.
Mmh.
Et moi, j'ai reçu une convocation devant un juge des affaires familiales.
Oui.
Pour être convoquée en mai 2022.
Mmh.
Donc, je n'ai pas compris, parce que je me suis dit, je n'ai jamais été paxée avec ce monsieur,
ouais,
j'ai
bien
jamais
sûr, bien
marié, rien. Et là, en fait, quand j'ai expliqué mon histoire à la juge des affaires familiales, il s'avère que ça s'est conclu par, on lui a donné un droit élargi de garde, alors que j'avais expliqué mon histoire.
Je comprends. Attends, que je comprenne bien. C'est-à-dire que légalement, il est pour l'instant reconnu comme le père.
Exact.
Oui.
Exact.
Alors que pour vous, c'est juste un imposteur.
Ah, c'est un voleur d'enfants, un kidnappeur d'enfants, pour être plus clair.
Je peux vous poser une question.
Oui.
Pourquoi, d'après vous, a-t-il agi comme cela? C'est ça que j'ai du mal à discerner.
Je vais vous expliquer.
Oui, je vous en prie.
Moi, je voulais un enfant, d'accord? J'ai un premier enfant qui a 17 ans, d'accord?
D'accord.
Séparé du papa, voilà, divorcé, j'ai marié 15 ans. Je voulais un autre enfant. J'ai 46 ans, d'accord? La loi française au niveau d'une PMA pouvait à l'époque, maintenant ça a évolué, c'est 45 ans, à l'époque c'était 43 ans.
D'accord.
J'arrivais sur ma, entre guillemets, je ne sais pas si ce terme est bien, mais sur ma fin de vie, de par une PMA en France, d'accord? Pour pouvoir faire une PMA en France à l'époque, il fallait obligatoirement être deux. Donc, avec ce monsieur
je comprends.
Qui est un bon ami, voilà, initialement, j'avais fait un projet parental.
J'ai compris.
D'accord? Et à partir du moment où ça n'a pas été possible.
Je ouvre une parenthèse, il faut faire quand même très attention
sûr,
avec les personnes avec qui on
sûr.
S'engage pour ce genre de choses, parce que c'est quand même
exact.
Pas des blagues. Vous voyez, on
exact.
Arrive à des situations
exact.
Inextricables.
Exact. Et
vous
donc,
savez, ce que disait Sacha Guitry, les amis, c'est formidable jusqu'à temps qu'on ait besoin d'eux.
Oui. Oui, c'est ça. Et après ça, en fait, quand on s'est rendu compte que monsieur était stérile, il n'y avait plus de questions à se poser.
J'ai compris.
Voilà, et moi, j'ai décidé de continuer mon projet seul, puisque de toute manière, il ne voulait absolument pas entendre parler de quoi que ce soit sans ses gamètes, entre guillemets, excusez-moi.
Ah non, mais c'est
et
pas un gros mot.
Quand mon bébé est arrivé, il s'est dit, ça fait bien, c'est pas mal, en fait. Et c'est pour ça qu'il a voulu rentrer dans le jeu, alors que j'ai des textos...
Le père biologique, le géniteur, il est évidemment... personne ne le connaît.
À moi, j'ai tout, puisque maintenant,
vous...
avec la loi...
Oui,
moi,
mais,
la
vous... non, mais je veux dire, lui ne le connaît pas.
Ah non.
En dehors de... Vous êtes la seule personne au monde à connaître les informations, c'est ça que je veux dire, à avoir les informations.
Et la clinique.
Oui, d'accord, mais ça va de soi. Mais lui n'a pas accès à ces informations-là, vous ne lui avez pas divulgué.
Alors, je vous explique. Comme j'étais assez proche de lui avant... Il est moi comme vous l'avez vu enfin comme je sais pas j'ai envoyé des documents
oui voilà, je les ai sous les yeux et j'avoue
voilà,
que c'est une affaire
c'est
kafkaïenne hein.
C'est ça donc en fait
c'est
moi
incroyable hein.
Il a tenté de venir voler mon enfant à la crèche en avril 2022. La directrice de crèche a eu le sang-froid de ne pas lui remettre mon enfant. Elle m'a dit Il s'est présenté pour que je lui donne votre enfant. Elle savait très bien qu'elle ne l'avait pas vu depuis des années. Donc, elle a bien compris. La seule chose, c'est qu'il a été se revendiquer ensuite en mairie en disant « c'est moi le père » parce qu'il avait le livret de famille. On était au moment de tout ça, au moment du jugement ou autre quoi. Moi, mon fils, il est petit, hein, il aura 3 ans le 20 janvier. Donc là, je n'ai pas passé Noël avec lui, je n'ai pas passé le Nouvel An avec lui, je n'ai pas passé mon anniversaire.
C'est un enfer, c'est-à-dire qu'il a, il a vécu Noël avec quelqu'un qui n'a aucun rapport avec lui.
Exact.
De votre point de vue, aucun droit. Et en fait, c'est, comme vous dites, un voleur d'enfants, c'est quelqu'un qui a décidé arbitrairement, enfin, pas pour la loi, mais au plan moral, qui a décidé arbitrairement qu'il était le père, alors que pour vous, c'est juste un pote avec qui vous ne l'êtes plus. Et donc, en fait, c'est un vol, mais c'est aussi une manière, peut-être même de viol, de votre intégrité morale.
Oui. Alors, pour tout vous dire, depuis le mois de juillet, donc moi, au mois de juin, quand j'ai vu la décision du juge, on me l'a délivrée par huissier début juillet. Donc, je me suis organisée les jours où il devait le récupérer à la crèche pour ne pas lui donner.
C'est
et ça a fini au mois de juillet où il m'a frappée devant la crèche de mon fils.
Il y a des témoins de ça ? Il y a des témoins ?
Oui, mais l'affaire, j'ai eu 5 jours d'ITT, ils ont été classés sans suite.
Bon, mais ça, c'est quand même étrange, tout ça.
Et j'ai fini en garde à vue, pour tout vous dire, le lendemain. J'ai fini en garde à vue pour une non-présentation d'enfant. Et j'ai eu beau expliquer que ce monsieur n'était pas le père de mon enfant, je me suis vue entendre dire, tant qu'il est sur l'acte et le livret de famille de votre enfant, c'est son père. Tant qu'il n'est pas contesté totalement. Et la contestation de paternité, le 13 décembre dernier, je vous le dis, parce que c'est passé en septembre et ça a été renvoyé en décembre, j'ai récupéré les documents qu'il a fournis, donc elle va continuer maintenant la contestation. Mmh. Il s'avère qu'il a fourni une fausse facture de PMA pour essayer de faire croire qu'il était dedans.
Mais ça se prouve qu'un document est faux.
Bien sûr, j'ai tout donné, mais on n'est pas encore à ce stade.
D'accord.
Moi, j'ai eu la connaissance de tout ça qu'au mois de décembre. Il a fourni des faux mails du médecin que vous voyez entre vos mains de la clinique où j'ai fait ma PMA. Il a fait des faux en écriture. Mais pour le moment, ça passe. Il passe la vague. Je ne sais pas comment.
Bon. Écoutez, moi je vais vous dire les choses. Hein. Votre histoire, je la prends très au sérieux. Elle me semble à la fois extraordinaire au sens étymologique et insupportable au plan moral. Donc ce que je vous propose, c'est de vous trouver, laissez-moi une semaine pour trouver un spécialiste, quelqu'un vraiment de pointu sur le sujet que je ferai venir en studio. On passera le temps qu'il faudra sur votre dossier, mais on ne lâchera pas l'affaire parce que ça me semble inouï cette histoire. Vraiment, j'ai même eu du mal à le croire, j'ai tous les documents sous les yeux, vous êtes évidemment de bonne foi.
Je vais vous donner même un autre élément.
Il ne reste plus que 30 secondes, c'est pour ça que je vous dis ça.
Okay. Moi, mon bébé, je l'ai vu 8 heures depuis le mois de juillet dans un lieu médiatisé qui est financé par l'association de Anne-Sophie Lapix.
Écoutez, votre histoire, elle est cauchemardesque. Absolument cauchemardesque. Donc, vous nous laissez une semaine. Et avec mon équipe, on va essayer de faire venir en direct sur Europe 1 vendredi prochain quelqu'un qui passera le temps qu'il faudra pour éplucher toutes les facettes de ce dossier qui me semble inextricable, mais il y aura forcément une solution in fine, mais on vous soutiendra, on médiatisera s'il le faut, mais vous ne pouvez pas rester dans cette situation. On fera évidemment ce qu'on peut avec nos moyens.
Bien sûr.
Mais en tout cas, on prend ça très au sérieux, ma chère Christelle, vous pouvez en être certaine. Très au sérieux.
Merci,
c'est normal, on est là pour ça. Je vous embrasse très fort, il est 1h sur Europe 1, merci de nous avoir suivis. C'était l'Antenne Libre, à demain.